Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Ganzmann, vous allez bien?
Bonjour Valérie.
Pas de terrasse aujourd'hui, il pleut un petit peu
partout.
Ouais,
le soleil a disparu, mais vous êtes là.
Voilà. Voilà, merci, c'est très gentil. On aura Jérôme Anthony avec nous dans un instant. Jérôme Anthony qui a cartonné avec Cyril Lignac, aux côtés de Cyril Lignac pendant
drôle.
Tout le confinement. Très drôle, très doué en cuisine. On va reparler avec lui et puis on va parler également d'une émission. Si, moi je trouve les 20 albums de diamants préférés des Français. Ce sera sur W9 à 10h30, le débat qui domine l'actualité, les violences policières, le ministre de l'Intérieur... qui a dit qu'il ne laisserait rien passer. Est-ce qu'il est en train de lâcher les policiers? On en parlera et on attend également vos témoignages. Qu'avez-vous regardé à la télévision hier soir? Le gros carton, c'est quand même pour Quotidien. 2 198 000 téléspectateurs. Hier, c'est un record historique. Quotidien, comment il s'appelle, Barthès, qui recevait Mélissa Bell et Guillaume Debré, deux spécialistes des États-Unis.
Mélissa Bell, c'est la correspondante française de CNN.
Ouais, de CNN, hein, absolument.
Qui donnait sa vision des émeutes.
Absolument. Hier soir, en tête pour la soirée, c'était TF1 avec The Resident, 4 millions, plus de 4 millions de téléspectateurs. C'est un petit peu moins que la semaine dernière. Deuxième position pour Top Chef, 3 874 000 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. Ça marche très très bien, c'était 200 000 de plus que la semaine dernière. Demi-finale, on attend la finale la semaine prochaine. On a Maria en ligne, bonjour Maria.
Oui, alors bonjour Valérie, je vais vous parler d'une autre émission sur la 3, l'émission Faut pas rêver. Voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai adoré cette émission d'hier soir sur le Périgord. Et je voudrais remercier l'animateur et l'équipe qui a filmé cette belle émission. C'est une émission qui est sensorielle et qui est à déguster sans modération. Et je voudrais vous en parler un petit peu. Est-ce que je peux vous raconter un petit peu ce qui m'a vraiment enthousiasmée?
Oui, qu'est-ce qui vous a plu? Parce que vous nous appelez, de la Loire, donc vous ne connaissiez pas ce département, vous ne connaissiez pas la Dordogne.
Je le connais, mais je vous avoue que cette émission, ce que j'ai trouvé de formidable, c'est qu'elle a un axe, une entrée qui est un peu différente, et elle nous fait découvrir sous des angles un petit peu différents. C'est ce qui m'a vraiment emballée. Voilà, par exemple, c'est une émission, donc c'est vraiment, on est dans la réalité d'aujourd'hui, mais on voyage, quand bien son nom, parce qu'elle nous fait aussi rêver dans le temps et dans l'espace. On est dans les airs, au début dans une montgolfière, et puis on frôle la canopée, on entend les bruits, on a l'impression d'être dans la montgolfière avec l'animateur, et puis on frôle la rivière aussi, c'est vraiment, on a l'impression d'y être...
C'était des sensations, en fait, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'était une rediffusion, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme l'histoire, ça ne se périme pas. Et effectivement, regardez-le en replay, Faut pas rêver sur le Périgord, qui a fait 1 853 000 téléspectateurs. C'est pas mal, c'est pas formidable non plus, mais c'est vrai que c'était une rediffusion. En tout cas, vous nous avez donné envie de re-regarder ce Faut pas rêver avec toujours des images époustouflantes. On va passer au zapping de Gilles. Merci Maria de votre appel.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie, alors, c'est l'info de la nuit et aussi ce que réclamaient les manifestants aux États-Unis. Et oui, cette nuit, l'acte du policier concernant celui qui a évidemment mis son genou sur George Floyd a été requalifié de meurtre.
Le décès de George Floyd après une arrestation violente le 25 mai à Minneapolis a été finalement requalifié en meurtre hier. Les trois policiers qui l'accompagnaient le jour de l'arrestation sont eux poursuivis pour complicité.
Je voudrais annoncer que le procureur du comté de Hennepin, Michael Freeman, et moi-même avons déposé une plainte qui accuse les policiers Quang, Lane et Tao de complicité de meurtre non prémédité, une infraction pénale.
Alors à coup sûr que le procès va faire de l'audience et va être suivi par tous les médias. Bien sûr, bien sûr. Ça va être un procès fleuve. Toujours sur l'affaire George Floyd, hier soir, l'ancien président Barack Obama est intervenu à l'occasion d'un chat. Il a salué les policiers qui ont posé leurs genoux à terre.
Je suis reconnaissant pour la majorité des policiers qui nous protègent et servent notre pays. J'ai été touché de voir ces policiers qui se sont dit « Laissez-moi défiler avec ces manifestants. Laissez-moi être à leur côté et admettre que je veux faire partie de la solution. »
that I want to be part of the solution.
On voit quand même que Barack Obama de plus en plus veut prendre la parole à la place de Donald Trump. Hein. C'est l'affrontement est assez intéressant. Hier, c'était l'interview fleuve Valérie de Didier Raoult sur BFM. Alors du grand show, hein, quand la jeune journaliste Margot de Frouville alors a tenté de le confronter, confronter le professeur à son test qui s'est fait sans groupe comparatif, mal lui en a pris.
N'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche, non, mais, parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients mais, vous auriez pu faire un groupe contrôle, comme ça on aurait pu savoir ce qui relevait de l'évolution naturelle de la maladie.
Non, mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi. Non.
Évidemment, vous avez remarqué le taisez-vous.
Ouais, et puis qui a beaucoup fait réagir, mais elle avait le mérite de poser une question à laquelle il n'a jamais répondu.
Ruth Elkrief, qui menait l'interview, n'a pas été épargnée non plus, elle aussi, par le professeur. Pour lui, elle n'est bonne qu'à commenter le football.
Je pense que vous êtes plus compétent pour regarder les joueurs de foot. D'accord. Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les 10 meilleurs chercheurs français, les gens ne le savent pas. Et je pense que vous-même, vous avez des difficultés à les regarder parce que la formation pour ça, les outils pour ça ne vous sont pas connus ou ne sont pas utilisés. Si vous voulez, c'est comme si vous compariez Mbappé à gardien de but de 3e division. Au bout d'un moment, vous savez que Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne sachiez pas que moi, je ne suis pas pareil.
Vous êtes vraiment le Mbappé de la médecine, de la recherche.
Ça va faire plaisir aux Parisiens.
En France, oui. C'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les éléments que vous preniez, vous ne me trouverez jamais en dehors des 10 premiers.
Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il accepte des interviews avec des profanes, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas de son niveau. C'est-à-dire que dans chaque interview, il répond aux gens, vous n'y connaissez rien, taisez-vous. Donc pourquoi à ce moment-là qu'il fasse un débat avec des médecins?
C'est son côté Abbé Pierre. Il rend service à l'humanité. C'est son
J'ai
côté
bien aimé
Abbé
le débat
Pierre,
qui
Pierre.
Suivait derrière, où les journalistes l'ont trouvé très mesuré. C'est pas le mot que j'aurais employé.
C'est sûr qu'on reparlera du Mbappé de la science. Et puis avec Rémi, demain, on verra l'audience que BFM a fait. On les a vers 11h. Ça continue à se rebeller dans ce zapping. Cette fois-ci, c'est le comédien Édouard Baird, dans C'est à vous, qui est revenu sur les prises de parole du ministre Christophe Castaner.
Sur les politiques, je n'ai pas d'a priori. Je n'aime pas l'idée tout ceci ou tout cela. Je crois que les gens travaillent. Après, il y en a, on a ses têtes et il y en a qu'on n'aime pas. Il y en a qui nous parlent très mal. Je pense que le ministre de l'Intérieur nous parle extrêmement mal. Ça, oui, ça, j'en suis convaincu. Je pense qu'il parle mal aux gens. Je pense que quand on ne dit pas attention, je mets des... ça s'ouvre, mais attention, il y aura des flics sur les routes. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est pas le ministre du fait attention, pampan cucu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce ministre-là me gêne personnellement beaucoup. Je crois que je ne suis pas le seul.
Sur France 2, le portrait surprenant, Valérie, d'une théologienne. Elle s'appelle Anne Soupa et elle est candidate à la fonction d'archevêque de Lyon. Une révolution.
Je pense que ce serait une révolution, mais il y a forcément une révolution à faire. Aucune femme dans l'Église catholique n'a de responsabilité importante. Aucune n'est prêtre, aucune n'est évêque, aucune ne vote les grandes décisions des synodes, aucune n'est diacre. Bref, les femmes sont invisibles. Dans une Église qui a été très malmenée par la question des abus, la présence des femmes serait très précieuse.
Les femmes dans l'Église, un vrai débat, hein. Et puis, elle aussi, elle était candidate, mais elle a gagné le gros lot, Valérie. Il était presque 21h30 quand Audrey, dans Prendre ou à laisser sur C8, présentée par Cyril Hanouna, a remporté combien, vous savez, Valérie?
100 000 euros.
Oh, bravo, madame.
J'ai zappé.
Je vous le dis, chez vous, avant qu'on ouvre la boîte de Sarah, si vous voyez 10 000 euros dans la boîte de Sarah, ça voudra dire qu'Audrey gagne 100 000 euros ce soir. La maison de vos rêves, là,
allez,
on va pouvoir y aller.
Allez.
$1,033,000 téléspectateurs, mais Rémi Pernelet me précise qu'il a gardé l'antenne effectivement jusqu'à 21h35. Mais c'est vrai que c'est assez addictif, hein, pour tout vous dire. Moi, je suis tombée dessus et on attend de voir ce qu'il y a dans la boîte. Ça fonctionne plutôt pas mal.
Et puis, il faut quand même remarquer quand même que c'est pour moi la première fois qu'il y a un jeu de ce qu'on appelle un jeu de flux animé en direct. C'est vraiment une performance pour un animateur que ça soit animé en direct.
Oui, c'est vrai qu'en général, ils sont enregistrés à la chaîne et que là, on est...
Et oui, mais par exemple, vous savez que lorsqu'on est enregistré, quand Arthur enregistrait les boîtes, eh bien, avant qu'ils ouvrent, on leur donne un signal et donc vous avez le temps de prendre des plans d'émotion des gens et de filmer et puis ensuite de monter pour faire monter la sauce. Là, vous n'avez pas une caméra sur chaque candidat. Donc, c'est aussi une performance de réalisation.
De réalisation. Allez, on va rejoindre Jérôme Anthony. Bonjour, Jérôme.
Qui a envie de...
Bonjour, Valérie. Bonjour.
Bonjour, Gilles. Vous êtes en Zoom.
Bonjour.
Vous êtes dans la cuisine ?
Ouais, je suis chez moi, dans ma cuisine. C'est devenu mon nouveau lieu de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en télétravail tous les jours ici dans ma cuisine. C'était une pièce que je ne connaissais pas avant. Elle était sombre, il y avait des toiles d'araignée, je n'y faisais rien. Et là, à partir de maintenant, voilà, c'est mon instrument de travail.
Vous avez pris un plan pour la retrouver le premier jour, c'est ça, un petit peu ? Vous ne saviez pas trop où elle était dans l'appartement. Deux actualités ce soir, W9, les 20 albums de diamants préférés des Français. On va en reparler dans un instant, mais on va surtout parler de Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Vous avez été à ses côtés, et vous y êtes toujours hein, d'ailleurs, tous les soirs, et ça a été un carton absolu. Racontez-nous comment ça s'est passé, cette idée de vous associer tous les deux.
Alors déjà avec Cyril, on est très copains depuis qu'il est à M6 d'ailleurs, on s'entend plutôt bien. Et puis depuis que j'ai fait le meilleur pâtissier célébrité il y a 2 ans, et là nos liens se sont resserrés encore entre lui et puis toute une bande de copains, son producteur, etc., etc. Et puis Cyril me disait tout le temps, à chaque fois qu'on se voyait, comme on rigolait bien, il me disait « j'aimerais bien qu'on fasse une émission ensemble ». Et le moment venu, voilà, c'était pas une promesse qu'il m'avait faite, c'était juste une idée en l'air. Et donc le moment venu, il m'a tout de suite... je pense carrément imposé sur cette émission. Donc, je me souviens un mercredi, donc quelques jours après le confinement, son producteur m'appelle, il me dit « T'as eu un appel d'M6 ?» Je dis « Non, pas du tout. » Il me dit « Mais c'est pas normal, ça. » Et puis voilà, c'était le mercredi, et le samedi, on était en direct à l'antenne.
Voilà. Et vous avez tout de suite dit oui, évidemment, ou pas ?
Alors parce déjà, que je dis oui, parce que je leur fais une énorme confiance à tous les deux, à Cyril et à Mathieu Jean-Toscani, son producteur. Je leur fais une énorme confiance à eux. MC s'était plutôt emballé par l'idée, donc on y est allé vraiment... On était chaud pour y aller. Et l'émission m'a tout de suite plu, parce que voilà, je me suis dit, c'est assez simple finalement. Ça va être une émission sympathique, conviviale. On va s'amuser, mais on savait pas très bien comment on allait le faire, hein. Comment on allait se partager les rôles, on l'a découvert en cours de route. On va s'amuser, et puis mine de rien, l'idée elle est assez simple mais efficace. C'est que tous les jours... les téléspectateurs ont droit à un cours de cuisine par un grand chef, sympathique, pédagogue, et c'est ce qui fait le succès de cette émission.
Ouais. Et vous avez appris donc vous aussi donc à cuisiner en direct.
Moi, je savais juste ouvrir une boîte. Hein. Moi, je savais rien faire du tout. Moi,
oui, ça se voit à l'antenne.
J'ai su nourrir mes enfants hein, quand ils ont grandi, etc. J'ai su faire ce qu'il fallait, le minimum. On s'est nourri. Correctement, on s'est fait livrer souvent. Et non, je n'ai pas trop encore cette culture de fabriquer soi-même de mon petit plat.
Mais vous avez envie aujourd'hui ou pas? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez continuer? Bon là tous les soirs vous avez eu de quoi vous sustenter, mais est-ce que vous allez continuer?
Alors, je trouve ça tellement convivial. Non, mais ça semble bête. Mais je trouve ça tellement convivial de recevoir des copains, de faire à manger soi-même. Ça semble complètement idiot, mais pour moi, c'est surréaliste. C'est génial, c'est formidable. Donc oui, je vais continuer à le faire. Je commence à choper des trucs. Voilà.
Ouais. Alors, pour raconter un peu les coulisses à nos auditeurs, il faut savoir que les personnalités, quand elles habitent à Paris, elles sont livrées par la production des ingrédients. Mais vous, tous les matins, vous allez les chercher. Hein, vous faites vous-même vos courses, c'est ça?
Attendez, vous m'apprenez quelque chose? Ils sont livrés chez eux, les invités?
Ah, il ne fallait pas le dire. Alors, je vous l'apprends.
Bon, je m'en doutais un petit peu.
D'après les informations de Sud Radio, les people seraient livrés pour leur nourriture.
Ouais, mais moi, je ne suis pas un people. Moi, je suis un artisan. Alors oui, je plaisante. Alors, je me doutais bien qu'ils étaient... Je ne me suis jamais posé la question, mais je me doutais bien qu'ils étaient livrés chez eux. Pendant le confinement, tous les lundis, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais c'était la guerre. Je partais faire mes courses pour la semaine et j'avais décidé de ne plus sortir de chez moi de la semaine. Ce que j'ai réussi à faire pendant tout le confinement. Mais c'était vraiment un moment tendu. C'est-à-dire, j'avais 3 heures de course. Parce que faire les courses avec des recettes de Cyril Lignac, c'est pas seulement acheter des pommes, des poires, des tranches de jambon. C'est acheter des produits dont on ne connaît même pas le nom. Donc, c'était un enfer. Je passais mon temps sur mon téléphone à faire des recherches pour savoir à quoi ça ressemblait physiquement, si c'était de la poudre, des épices, des feuilles. Je ne connaissais rien du tout. Et même encore aujourd'hui, je découvre des mots que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas dans mon vocabulaire.
Bon, et donc ça va s'arrêter ou pas? Ou vous pensez que ça peut continuer sous une autre forme, cette émission?
Là, on trace jusqu'au 12 juin. Et il se peut qu'à la rentrée, sans pour parler, on reprenne ponctuellement cette émission, parce que je pense que toute l'année ce serait un petit peu beaucoup, mais ponctuellement à des bons moments ça pourrait être très sympathique. Mais alors moi je ne suis pas du tout dans ces conversations là, je vous l'ai dit, je suis un petit artisan chez moi dans ma cuisine et j'attends qu'on m'appelle.
Quelle voilà, est la recette que vous avez adorée, le plat que a fait Cyril que vous avez adoré et que vous avez réussi?
Écoutez, chaque plat que je fais chaque jour efface celui de la veille. C'est-à-dire, hier, on a fait une salade César. Je prends tout le temps des salades César, moi, à midi. Quand je suis à Paris et que je travaille, je m'arrête dans un bistrot, à midi, je prends toujours une salade César. Mais celle que j'ai faite hier, c'était une salade César pour un championnat du monde. C'est-à-dire, c'était génial. On s'est régalé après. Le petit dessert extraordinaire. Voilà, c'était une soirée très sympathique hier. J'ai pu me régaler. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a un plat que vous referez? C'était un peu la question de Gilles. Est-ce qu'il y a, une recette en particulier qui vous a plu?
Alors, écoutez, rien ne me vient comme ça. On a fait un petit risotto de pâtes. C'était un petit peu, très régressif comme plat.
Hein. Je l'ai fait aussi.
Eh ben, il était génial parce que finalement, c'était un plat de coquillettes avec du jambon. Mais tout d'un coup, c'était devenu un risotto de pâtes avec une préparation, des ingrédients auxquels on n'avait pas pensé. J'ai trouvé ça simple, rapide, efficace. Et on m'a beaucoup appelé pour avoir la recette, pour que je la renvoie à tout le monde. Alors, je le dis à ceux qui me connaissent, au cas où, parce qu'à chaque fois, on me pose la question. Dans mon téléphone, j'ai le déroulé de toutes les recettes. C'est-à-dire, si on a envie de se faire une soirée tous en cuisine, j'ai toutes les recettes dans mon téléphone.
Mais il va y avoir un livre, hein, je crois, qui va paraître. Donc on n'aura pas besoin de vous appeler. Vous continuez malgré tout vos autres activités. Et ce soir, on va vous retrouver sur W9 avec les 20 albums de diamants préférés des Français. C'est quoi un album de diamants pour les ignares qui ne savent pas ce que c'est qu'un album de diamants?
Alors, vous savez, aujourd'hui, un album de diamants, ça n'a plus beaucoup de sens. Gilles doit savoir combien de titres ça représente.
C'est moi la patate chaude.
C'est un million,
moi, je pense que c'est un peu moins. C'est beaucoup, un million, hein, maintenant. Je ne parle pas de maintenant.
Je ne parle pas de maintenant, mais je crois qu'à l'époque, c'était un million. Non, mais vous savez, l'idée du diamant,
moi, je suis un millénium, je n'étais pas né.
C'est ça, ouais. L'album de diamants, c'est l'album ultime, c'est-à-dire c'est l'album que les gens ont aimé. Voilà, c'est un sondage qui a été effectué auprès des Français pour connaître leur album préféré, mais c'est pas forcément l'album qui s'est le mieux vendu. L'album préféré des Français, ça peut être aussi un album qui s'est bien vendu mais pas ouf et qui avec le temps est devenu culte. En tout cas, ça fait partie, la musique, les chanteurs, les chansons, ça fait partie de ces choses qui nous unissent tous et qui fait que ce soir, on va retrouver des chansons qu'on connaît tous, qu'on va être heureux de retrouver, dont on va apprendre l'histoire, parce que un tube, ça ne peut pas se prévoir, il y a toujours une petite histoire avant, et même une petite histoire après, donc on va retrouver les protagonistes, les producteurs, les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, les spécialistes, les journalistes, de chacun des domaines pour chacune de ces chansons.
Alors, diamant, c'est 500 000 albums.
Bravo.
Platine, voilà, c'est 100 000, donc c'est pas mal, voilà, en direct, j'ai trouvé.
Et avant, c'était 1 million. À l'époque.
Voilà, Gilles, allez-y.
Je voulais vous proposer d'écouter la bande-annonce pour voir quels extraits de chansons on va entendre de ce classement. Écoutez.
Des tubes inoubliables.
On écoute ça.
Entrer dans l'histoire des meilleures ventes.
Certifié disque de diamant.
Plus de 500 000 exemplaires vendus.
En 3 semaines, on était au million.
Plonger dans les coulisses de ces albums devenus cultes. Et découvrez enfin
quel est l'album de diamant qui a remporté tous vos suffrages.
Voilà.
Donc, des 20 disques préférés.
Vous pariez sur quoi, Valérie? Moi, je parie sur Céline Dion, je suis sûr. En premier.
Je ne sais pas, mais ça c'est à regarder en mangeant le risotto de coquillettes. Hein.
Bon. Ouais,
c'est très régressif. Hein. Alors Mickaël qui est pointu, notre auditeur, nous dit que c'était 1 million avant et c'est 750 000 maintenant. Voilà, donc,
ah bah voilà, grande, j'étais bon là.
Pardon? Oui, c'était
non, je dis j'étais bon quand je disais un million.
Ouais, pas mal. Et vous, c'est quoi votre disque de diamant ?
Voilà, moi j'aime tellement les chansons que je n'arriverai jamais à faire un choix. Comme ça, je vous dirais bien que cet album, ce fameux album de Céline Dion, mais moi, mon album préféré à moi, c'est sans doute pas un album qui a été un succès. Moi, je suis fan des chansons des années 70, notamment de toute cette période, des années 80, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'aime tellement tout que je n'arriverai jamais à faire un choix, malheureusement.
Et ce soir, on va manger quoi ? Ah, oui, pardon.
Non, allez-y. Et ce soir, au menu, chez Cyril Lignac ?
Ouais, au menu.
Merde, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait ?
Bon.
Ça va me revenir. Ça va me revenir avant la fin de notre intervention.
Bah ça y est, là, c'est maintenant, c'est la fin. Donc,
faudra
regarder ce soir. Merci beaucoup, Jérôme Anthony, d'avoir été avec nous. J'espère que vous nous inviterez pour un bon petit plat. Voilà, et on vous regarde ce soir, 21h05 sur W9, les 20 albums de diamants préférés des Français. Merci à vous.
Merci, je vous embrasse.
Moi aussi, à bientôt, on se retrouve dans un instant pour parler violence policière, la responsabilité des policiers, est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle ? À tout de suite avec vos témoignages, 0826 300 300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commenterons l'actualité largement dominée par toujours la manifestation qui a eu lieu avant-hier à Paris, à Lille et à Marseille. Et puis les questions qui se posent autour du racisme, des policiers accusés de racisme. Hier, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne tolérerait aucun acte de racisme ou de violence injustifiée. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a lâché les policiers ? Le racisme des policiers est-il systématique, systémique ? On en parle ce matin avec maître Philippe-Henri Honegger. Bonjour, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général du SCSI, CFDT, syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Donc cette question et ces manifestations qui ont quand même rassemblé énormément de monde, qui sont le symptôme ou le symbole qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Christophe Rouget, comment est-ce que vous avez, vous, réagi quand vous avez vu tous ces gens dans la rue pour soutenir Adama Traoré, mais également pour dénoncer les violences policières ?
Je crois qu'il faut toujours regarder ce qui se passe et mais lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans une manifestation, il faut toujours analyser les faits. On peut de toute façon déjà comprendre le désir de vérité de la famille, mais moi je fais confiance à la justice en France. Il y a une instruction, il y a des médecins qui sont nommés, il y a toute une enquête qui est effectuée, donc j'attendrai les résultats de cette enquête. Mais après, il faut évidemment prendre conscience qu'il y a des gens qui ont un manque de confiance dans la police nationale. Et ça, il faut trouver des solutions pour éviter cela. Mais aussi, il y a des gens qui exacerbent les tensions, qui font preuve de communautarisme, qui mettent de l'huile sur le feu et qui sont en train de monter les uns contre les autres. Et ça, ce n'est pas bien parce que nous sommes une police républicaine, nous sommes une police au service de nos concitoyens, et nous ne pouvons pas accepter d'être stigmatisés. Il n'y a pas un racisme systémique dans la police nationale.
Oui. Comment vous avez, sur la déclaration d'hier du ministre de l'Intérieur, je serai intransigeant parce que l'exigence que nous avons vis-à-vis des policiers qu'il faudrait, c'est garantir justement la sérénité du travail de l'ensemble de la police et de la gendarmerie. Des paroles un peu creuses tout de même, qui vont un peu dans le sens de ce qu'ont envie d'entendre peut-être ceux qui manifestent et qui peut-être, pour les policiers, sont difficiles à entendre puisque vous stigmatisant d'une certaine manière.
Ces propos tombent mal à propos puisque c'est au lendemain d'une manifestation, c'est des propos politiques pour apaiser, je pense, la situation. Mais sur le fond, il a raison, mais c'est ce qui se faisait déjà. C'est-à-dire oui, que c'est nous-mêmes, nous les policiers, nous ne tolérerons pas le racisme, nous ne tolérerons pas qu'il y ait brebis galeuses chez nous. Vous savez, le racisme, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas aux frontières de nos professions. Il y a du racisme parmi les hommes politiques, parmi les avocats, les journalistes. Il y en a aussi, malheureusement, parmi les policiers. Mais ça peut arriver. Et ces gens-là, ils doivent être sanctionnés comme ils le sont. Voilà, donc,
mais est-ce qu'ils le sont ? Est-ce qu'ils le sont ? Alors peut-être que je vais poser la question à l'avocat, maître Philippe Honegger. Est-ce que les policiers brebis galeuses sont sanctionnés ?
Alors, je crois qu'il faut quand même toujours être prudent quand on parle de ces choses-là. Mais c'est vrai que le sentiment général que peuvent avoir les populations et qui est exprimé à travers les manifestations qu'on a eues ces derniers jours, c'est plutôt qu'il y a des gens qui sont victimes de violences illégitimes des policiers et qui ont le sentiment que ceux-ci ne sont pas sanctionnés ou ne sont pas sanctionnés à la hauteur de ce que ça devrait être. Et ce sentiment-là, il faut quand même bien dire qu'il n'est pas simplement le résultat d'une émotion sans fondement. On a un rapport d'Amnesty International qui date déjà de quelques années, mais qui dit que l'IGPN, c'est-à-dire l'organisation qui est censée justement gérer les sanctions sur les policiers, est une institution qui ne fonctionne pas et qui n'a jamais été réformée depuis. On a l'année dernière le rapporteur, le défenseur des droits, qui a rendu un rapport disant qu'il y avait des discriminations qui étaient systémiques dans la police et qui a réitéré, et c'est un peu le hasard de l'actualité, hier, je crois qu'on est un peu passé à côté de cette actualité, mais hier, Jacques Toubon a réitéré avec un nouveau rapport en disant qu'il avait pu constater des discriminations dans la police qu'il estime être systémique. C'est-à-dire que quand on a la répétition et la répétition de ces effets-là, et qu'au niveau de la sanction, en tous les cas de la réponse pénale sur les policiers, on n'en voit pas beaucoup, on se dit qu'il y a quand même un problème. Il y a une étude qui est parue l'année dernière, 2019, 313 plaintes dans le cadre des Gilets jaunes contre les policiers, zéro affaire qui est sortie. À mon sens, c'est un peu problématique.
Oui. Vous-même, vous défendez des familles dont les proches ont été blessés, voire même tués, dans les manifestations de Gilets jaunes. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, je trouve que ce débat, il est assez compliqué, parce qu'on a l'impression qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, et qu'il y a une bataille de communication aujourd'hui qui est là, et qu'on oublie aussi ce que vivent les policiers au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça.
Évidemment, et c'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent, et je suis assez d'accord quelque part avec ce que dit le policier que vous avez aujourd'hui avec nous, c'est que il y a ce qu'il a appelé des brebis galeuses. Le problème, c'est pas la police, le problème, c'est pas les policiers, le problème, c'est certains policiers qui ne devraient pas l'être et qui devraient être sanctionnés. Et le problème, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on les sanctionne. Après, sur le fait de cautionner ou pas cautionner, très honnêtement, je crois aussi que dans la police, il y a peut-être aussi quelque part un petit problème de ce qu'on appelle l'esprit de corps et autre chose, qui fait que certains comportements, certaines dérives sont pas forcément toujours dénoncés ou en tous les cas signalés par les collègues. Dans l'affaire, par exemple, vous savez qu'il y a eu quelques semaines de ce policier, de quelqu'un qui se noie et qui dit, vous savez, les bicots, ça sait nager ou quelque chose comme ça, et qui est pris en vidéo, aucun des collègues qui étaient présents n'est venu dénoncer ou signaler ce comportement-là. Il a fallu qu'il y ait une vidéo qui sorte pour que finalement l'affaire sorte. Et moi, je suis, excusez-moi de le dire, mais c'est peut-être parce que j'ai une très très grande estime justement par les policiers, mais je suis extrêmement choqué que les collègues, s'ils ne cautionnent pas ce genre de propos et ce genre de comportement, ne le dénoncent pas systématiquement. Parce que quand on dénonce pas, quand on est un policier, quand on est face à ces comportements, quand on dénonce pas, c'est que quelque part on cautionne. Ou en tous les cas, c'est le sentiment que peut avoir la population. Et ça, c'est extrêmement regrettable.
Christophe Rouget ?
Oui, il faut faire attention au sentiment justement que peut avoir la population, parce qu'il ne faut pas dire des choses qui sont fausses. La police, elle est contrôlée par l'IGPN, par la justice, par le défenseur des droits.
Mais pardon de vous interrompre, l'IGPN, vous voyez bien qu'il y a une non-confiance, une défiance vis-à-vis de l'IGPN, où on a le sentiment, je ne sais pas si c'est la réalité, que l'IGPN, d'une certaine manière, des flics contrôlés par des flics, ça ne peut pas marcher. Alors, c'est vrai que l'IGPN est en cause à chaque fois en disant « oui, ils ne font pas le boulot, ils sont complaisants, etc. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ?
Vous savez, d'abord, il y a une histoire en France et toutes les professions, elles sont contrôlées par elles-mêmes, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Tout ça, c'est lié à notre histoire. L'IGPN, elle fait correctement son travail. Les sanctions dans la fonction publique, 50% des sanctions, c'est les policiers. Ils sont condamnés. On a vu l'autre fois, par exemple, encore les policiers qui ont commis des gestes à Marseille, qui ont frappé un individu qui l'a amené en dehors de la circonscription de police, ils ont été condamnés à 4 ans de prison. Donc, il y a des sanctions. La justice, parfois, on le sait tous, elle est lente. Et justement, on a un décalage entre cette lenteur et les condamnations. Mais il y a des policiers qui sont condamnés, il y a des policiers qui sont exclus de la police nationale parce qu'ils ne font pas correctement leur métier. Et moi, je lutte contre tout le racisme. Et vous savez ce qui s'est passé à la manifestation? Moi, j'ai été très choqué à cette manifestation parce qu'il y a des gens qui jettent de l'huile sur le feu. On a la youtubeuse Nadjet Lika qui a traité un jeune policier noir, et ces images sont terribles, de vendu, de traître. On a Tahabouaf, un journaliste, mais aussi candidat à la France Insoumise, qui a hier sur les réseaux sociaux traité une de mes collègues, Linda Kebab, d'ADS et un adjoint de sécurité dans la police, d'arabe de service. Le racisme, il faut le combattre partout. Et j'espère que ces gens seront aussi condamnés. Vous voyez, il faut faire attention à tous ces gens qui jettent de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, j'ai des collègues de toutes les couleurs qui travaillent sur le terrain et qui sont traités de noirs, d'arabes, de traîtres. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que nous avons des gens qui veulent qu'on n'intervienne pas dans des quartiers, qui veulent faire monter ce communautarisme. Il faut qu'on retrouve, qu'on apaise tout ce climat-là et qu'on trouve des solutions pour sortir que le rapport entre la population et la police nationale, il soit meilleur.
Oui, maître Honegger, qu'est-ce que, enfin, c'est ce que vous dites tombe sous le sens. Maintenant, on voit bien que c'est pas du tout ce qui est. On parle de ce mot sentiment. On voit que c'est pas du tout ce qui ressort. En tout cas, on a encore une fois ce que je disais tout à l'heure, d'un côté des victimes et de l'autre des agresseurs.
Maître, Oui, non, mais moi, j'entends qu'on dit ça. Simplement, quand c'est année après année après année que ce sentiment il grandit, et c'est pas qu'un sentiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens qui disent j'ai été victime. Et l'auteur de ces violences n'est pas sanctionné. Pourquoi ? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, on a d'abord un système où, effectivement, c'est des policiers qui contrôlent des policiers. Donc, du point de vue ne serait-ce que de l'objectivité, ça pose un problème, sans parler du point de vue de l'image que ça donne. Et les policiers, excusez-moi, mais c'est pas les mêmes professions que les autres. Les enjeux sont différents. Des médecins qui, entre médecins, disent pareil, est-ce qu'ils ont bien fait, c'est pas... Non, mais...
Il y a un gros enjeu aussi, le conseil de l'ordre des médecins est aussi remis en cause.
C'est pas simplement un enjeu de déontologie, vous voyez ce que je veux dire, c'est un enjeu pénal de causer des violences sur des... quand un médecin commet une infraction pénale, l'enquête elle est menée par des policiers, elle est pas menée par des médecins, c'est uniquement dans un cadre déontologique. Et puis l'autre chose, vous savez, c'est aussi que dans notre système, celui qui décide si oui ou non on engage des poursuites, celui qui réclame ou non des peines à l'audience, c'est le procureur. Et il se trouve que le procureur, il est aussi au quotidien le patron des policiers. C'est lui qui leur dit vous allez faire ci, vous allez faire ça, c'est lui qui leur donne des ordres. Donc c'est aussi très schizophrénique de demander à un magistrat de à la fois vous êtes le patron, c'est vous qui donnez les ordres, donc ils sont sous votre responsabilité, mais c'est aussi vous qui devez décider si vous allez sanctionner ou pas. Et moi, je pense que tant qu'on changera pas ce système-là, tant qu'on créera pas un système qui, ne serait-ce que dans le fonctionnement, permet une objectivité, mais surtout auprès du public, permet de dire on est absolument légitime, tant qu'on changera pas ça, on continuera à avoir ces problèmes-là. Et moi, je peux vous dire que si demain on avait un système un peu différent, dans lequel on fasse rentrer des personnes de la société civile, dans lequel on ouvre, où on a un peu plus de transparence sur les enquêtes qui sont menées, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup plus d'enquêtes qui sortiraient, beaucoup plus de policiers qu'on pourrait identifier et sanctionner. Et quand je vois, vous savez, le 27 mai, M. Éric Ciotti qui vient déposer une loi en disant « Non mais maintenant, on va interdire de filmer les policiers en intervention dans la rue ». C'est exactement le contraire de ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en disant ça, en essayant de proposer cette loi-là, qui ne passera pas évidemment, il ne fait que renforcer ce sentiment de la population qui dit « Mais attendez, ils ont déjà une impunité, et en plus on vient la renforcer parce que les seuls moyens parfois de prouver leur culpabilité, c'est grâce à des vidéos, bah maintenant on va même nous interdire de rapporter la preuve du fait qu'on soit victime ».
Alors, on va continuer ce débat 0826-300-300 si vous voulez réagir. On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, la police française est-elle raciste ? Y a-t-il un point commun avec les États-Unis ? On en parle ce matin avec Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général du SCSI et CFDT, syndicat des cadres de la sécurité intérieure, et maître Philippe-Henri Honegger, avocat pénaliste du cabinet Ruben et Associés. Vous défendez un certain nombre de personnes qui accusent des policiers de violence. Une question peut-être, Christophe Rouget, sur le sentiment aujourd'hui chez les policiers. Quel est l'état d'esprit des policiers face à ce qui se passe depuis deux jours et même aux déclarations du ministre de l'Agriculture hier, qui était sur Sud Radio et qui d'une certaine manière comprenait la manifestation en soutien à Adama Traoré?
Les policiers, vous savez, ils se lèvent le matin en allant faire des patrouilles, en allant faire des enquêtes, en essayant d'aider leurs concitoyens, d'interpeller des délinquants, des criminels, des violeurs, de rétablir le maintien de l'ordre. Et ils sont fatigués d'être stigmatisés. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent importer ce qui s'est passé aux États-Unis et dire que c'est comparable en France. Non, il n'y a rien de comparable. La France, c'est une des forces de l'ordre, gendarmerie, police nationale, qui sont recrutées au niveau national. Ça n'a rien à voir avec les polices municipales qui sont recrutées aux États-Unis, dans certains États, avec une histoire difficile entre les cultures. Et donc, nous avons des policiers aux États-Unis qui tuent plus de 1000 personnes par an. Donc, on a quelque chose qui est totalement différent avec un racisme structurel qui existe aux États-Unis, qui n'existe pas en France. Donc, les policiers, ils sont fatigués d'être stigmatisés. Et ce matin, je voyais encore une interview de mon collègue Abdoulaye Kant qui était sur une chaîne de télévision et qui disait « Tous les jours, je suis insulté. Tous les jours, je suis traité de nègre de service. »
Absolument, parce que Abdoulaye est noir. On l'a déjà eu ici, Abdoulaye Kant. Ouais.
Tout à fait. Et vous voyez, tous les jours, il se fait insulter sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui prospèrent sur les outrances, prospèrent sur les caricatures et qui font le lit, malheureusement, de cette haine anti-flic.
Ouais, on a une remarque sur Twitter de Sacha qui dit « Le peuple contre la police, c'est curieux comme les événements prennent une drôle de tournure. On ne parle pas de racisme anti-blanc, d'incivilité, de délinquance. S'il n'y a plus de police, comment on fait ?» Je pense que comme dans tous les corps de métier, il y a des bons et des mauvais. Et c'est vrai que de mettre tout le monde dans le même panier, c'est compliqué. Mais il y a une bataille de la communication. Enfin, moi, j'en suis profondément persuadée qui a été gagnée par... Enfin, la police a un problème de communication. C'est-à-dire que ce que vivent aussi les policiers n'est pas tellement raconté et tellement dit. Maître Neguer, sur effectivement cette remarque qui est faite par notre auditeur.
Non, mais moi, c'est-à-dire que je suis absolument d'accord sur le fait que je pense que la grande majorité des policiers ne demandent qu'à faire leur travail de la meilleure manière qui soit. Je pense pas qu'il y ait un racisme systémique au sens qu'il est encouragé ou qu'il y ait des directives dans ce sens au sein des services de police. Et je suis d'accord avec le fait qu'il ne faudrait pas que la grande majorité des policiers et de cette belle institution qui est importante pour notre République et pour notre démocratie ait à payer des mauvais agissements d'une minorité d'entre eux. Maintenant, la vraie question qui se pose, une fois que cela est posé, et je pense que n'importe quelle personne à peu près raisonnable vous dirait ça, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il ne faut pas non plus croire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les invectives des uns et des autres dans ces cadres-là, ça reflète la réalité de l'opinion des personnes un peu raisonnables. Mais une fois que ce débat il est posé, c'est-à-dire que la majorité des policiers font correctement leur travail, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on traite efficacement la minorité qui ne fait pas ce qu'il faut et qui agit mal. Et c'est là qu'est le cœur du problème, c'est que cette chose-là n'est pas traitée et que si on ne traite pas ça, ça a tendance, à mon avis, justement, à gangréner l'ensemble du système. Vous voyez, c'est le problème, il est là. Et après, on peut pas nier. Quand on a un rapport du défenseur des droits hier qui sort en disant il y a une forme de racisme systémique dans la police de Paris, je peux pas faire comme si ça existait pas. J'en suis choqué. J'imagine que ça représente pas la majorité des cas, mais je me dis que c'est très très inquiétant et qu'il faut traiter ça.
Il dit « Les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés ». C'est le chiffre effectivement qui a été donné hier par le défenseur des droits. Mais vous évoquiez tout à l'heure les médecins, la comparaison entre les médecins et les policiers. C'est un travail particulier que celui de la police qui est là pour maintenir l'ordre. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui a été contrôlé dans l'ouest de Paris, donc plutôt chic, plutôt beau quartier, en disant « bah oui, évidemment, ils viennent nous contrôler ». rappelez-nous, parce que ça risque moins que dans les banlieues. Donc tout le monde déteste la police d'une certaine manière. Je mets des guillemets, mais il s'est fait contrôler parce qu'il avait pas de bande réfléchissante sur son casque. Donc il dit, ils sont là pour faire du chiffre, ils viennent dans le 16e pour emmerder les gens qui font rien. Donc il y a toujours cette réaction aussi aux policiers qui est là pour faire respecter la loi.
Bah, tout le monde déteste être contrôlé par la police. C'est pas détester la police, mais tout le monde déteste être contrôlé par la police. Vous êtes en train de circuler, on vous empêche, on vous arrête, on vous demande des choses. C'est pas forcément très agréable. Mais il est très symbolique l'exemple que vous donnez. C'est-à-dire que ce monsieur, il a probablement pas du tout l'habitude d'être contrôlé par la police. C'est peut-être même la première fois de sa vie que ça lui arrive. Et vous voyez, sa réaction, c'est que ça le met hors de lui et qu'il le vit comme une injustice. Mais ce dont il ne se rend pas compte, c'est que justement, s'il était une minorité visible, s'il habitait dans certains quartiers ou dans certains départements de France, ce qu'il a vécu là, il le vivrait quasi quotidiennement. Et que la petite révolte qu'il a ce jour-là, ça grandirait comme une sorte d'injustice sourde et profonde qui est aujourd'hui exprimée par ces gens qui sont dans la rue. Et je peux vous dire que votre ami, s'il était effectivement contrôlé tous les jours et que tous les jours on l'arrêtait pour la bande sur son casque, mais qui est une infraction, qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Si on écoutait son téléphone, si on s'intéressait jour à jour, jour après jour à sa vie, et s'il devait vivre, même par une minorité, les brimades, les insultes, les comportements humiliants, il deviendrait absolument fou. Et c'est malheureusement un peu ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on aimerait éviter, c'est que ces gens-là qui sont victimes de cette discrimination ne deviennent pas fous et qu'ils aient l'impression d'être à l'égal des uns et des autres.
Ouais. Christophe Rouget, est-ce que c'est un débat impossible? Est-ce que qu'est-ce que effectivement on a ce ressenti, on a cette réalité des personnes issues de l'immigration noire maghrébin qui se font contrôler plus que les autres?
Aucun débat n'est bloqué. Il faut toujours avancer, je crois, et c'est pour ça que nous avons une police qui est aujourd'hui à l'image de la société. Il n'y a pas le peuple et la police. Il y a des jeunes qui sortent des écoles. Qui sont de toutes les origines et qui rentrent dans la police nationale, gardien de la paix, officier, commissaire. Et nous, on a des gens qui veulent que nous allions dans les cités parce qu'ils sont embêtés, parce qu'il y a du trafic de drogue, parce qu'il y a des rodéos, parce que leur vie, elle est impossible parce qu'il y a des délinquants. Et donc, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les contrôle. Donc, tout ça, c'est des équilibres qui sont très compliqués à trouver. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Ah, mais la police, finalement, elle n'est pas l'image de la société. » Puis d'autres, du coup, lorsqu'il y a un policier qui est noir ou d'origine maghrébine, qui disent « Tu es un traître. » Donc, tout ça, c'est compliqué. Je crois qu'il faut rapprocher. On a aussi le monde politique, peut-être depuis des années, qui a utilisé la sécurité et qui l'a mal utilisé. Et donc, il y a un peu stigmatisé, du coup, ces comportements extrémistes. Et je crois qu'il faut qu'on arrête, du coup, ce débat entre des gens extrémistes d'un côté et de l'autre et que les gens qui sont raisonnables puissent se mettre autour de la table pour qu'on avance. La police, elle est là pour les citoyens. Elle est là pour leur apporter de la sécurité. Elle n'est pas là pour les embêter, mais elle est aussi là, parfois, parce qu'il faut faire respecter des lois pour protéger les uns, pour que la liberté des uns puisse être pour tout le monde. Voilà, c'est ça le rôle de la police au quotidien. Ouais. Il faut pouvoir le favoriser dans des bonnes conditions parce qu'il est de l'intérêt de tout le monde que la police nationale elle soit efficace, elle soit présente partout dans tous les quartiers.
Maître Neguer, il y a un problème, on n'a pas le temps d'entamer le débat, mais il y a aussi le problème de la justice qui ne suit pas forcément et qui n'est pas forcément super efficace.
Pour les raisons que je vous ai données, parce qu'elle est engagée, parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que le système n'est pas fait pour ça, mais vous savez, je parlais tout à l'heure des vidéos, il y aurait un moyen judiciaire par exemple qui serait extrêmement efficace pour en partie régler ce problème-là, c'est vous savez les caméras piétons, équiper chaque policier d'une caméra qui filme tout ce qui se passe. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites, si c'était généralisé, je vais vous dire que ça résoudrait un grand nombre de problèmes, parce que un cas de contrôle qui ne devrait pas avoir lieu, on regarde la vidéo, c'est réglé, quelqu'un qui insulte un policier, qui a un mauvais comportement, on regarde la vidéo, c'est réglé. Et devant la justice, ça serait assez simple de venir gérer ces questions-là. Mais bizarrement, alors qu'on pousse, on pousse, on pousse, depuis de nombreuses années, on a l'impression que du point de vue du gouvernement, ça freine et qu'on a du mal à en mettre en place ce système qui, à mon avis, résoudrait beaucoup de problèmes.
Merci à tous les deux. Merci Maître Neguer. Merci Christophe Rouget. Dans un instant, la suite sur Sud Radio. On va débattre, continuer à parler effectivement de cette question avec vous. À tout de suite.